Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Lubumbashi. Voici les titres de ce journal. Au Nord Kivu, après trois jours d'affrontement entre les rebelles du M23 et les milices locales sur l'axe Kiwanja-Ishasha, en groupement Binza, les rebelles occupent les agglomérations de Buramba et Nyamilima. Selon les notables du milieu, les rebelles viseraient le poste frontalier d'Ishasha à 20 km de leur position actuelle. 64 années déjà ce mercredi 4 janvier 2023, depuis que les Congolais commémorent les martyrs de l'indépendance. C'est référent au propos du tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. Le professeur Alphonse Toumba Luaba rappelle que cette indépendance avait été acquise dans le sang. L'invité de ce journal est le point focal du processus de paix de Nairobi 3 au Nord Kivu. Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata demande aux parties prenantes d'afficher une volonté d'engagement personnel pour la pacification de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, pour commencer ce journal, après trois jours d'affrontement entre le M23 et les milices locales sur l'axe Kiwanja-Ishasha, en groupement Binza, les rebelles occupent plusieurs agglomérations. C'est notamment Buramba et Nyamilima. Selon des sources dans la zone, les rebelles du M23 occupent cette zone après avoir repoussé les milices locales. Pour les notables du milieu, les rebelles viseraient le poste frontalier d'Ishasha à 20 km de leur position actuelle. Le point avec vous, Alain Irung.
Selon des sources dans la zone, c'est ce mercredi matin que les rebelles du M23, avec leur soutien, viennent d'entrer à Nyamilima. Ils n'ont croisé aucune résistance sur place. C'est le mardi aux environs de 14h qu'ils ont affronté les milices locales à Buramba, 5 km au sud de Nyamilima, avant de les repousser, ajoutent nos sources. Les habitants se sont dirigés dans le parc des Virunga, d'autres ont pris la route de Nyakakoma, ajoutent les mêmes sources. Des notables dans la zone expliquent qu'après l'occupation des postes frontaliers de Kitagoma et de Bunagana qui génèrent depuis quelques mois des revenus pour le M23, ce mouvement rebelle et ses soutiens visent à présent le poste frontalier de Ishasha ainsi que le poste secondaire de Munyaga. Pour eux, le gouvernement devrait prendre de toute urgence des dispositions pour éviter que le M23 ne contrôle ce deuxième important poste frontalier du territoire de Rutshuru. Ces notables demandent à la force régionale de se positionner dans les zones visées par les rebelles pour limiter leur avancée. La société civile locale, qui redoute le pillage de la grande agglomération de Nyamilima par ces rebelles, estime que laisser les rebelles occuper des nouvelles agglomérations pour négocier par la suite un hypothétique retrait ne fait pas avancer sur le chemin de la paix.
Le réseau contre le terrorisme en RDC, qui réunit près de 150 organisations de la société civile, salue le dernier rapport des experts des Nations Unies portant sur l'agression de la RDC victime dans sa partie est. Ce réseau plaide pour que la Cour pénale internationale se saisisse des cas de violations graves des droits de l'homme afin de mener des poursuites contre leurs auteurs dans la perspective de mettre fin à l'impunité du M23 et de son soutien le Rwanda. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
Dans ce communiqué publié ce 3 janvier 2023, ce réseau exige des sanctions contre le Rwanda et demande à la Cour pénale internationale d'amorcer des enquêtes afin de poursuites contre les plus hauts responsables de 10 crimes. D'après ce réseau, le rapport des experts des Nations Unies établit que le M23 a utilisé les enfants combattants, bombardé des biens à caractère civil, commis de meurtres, des viols, des détentions arbitraires, des tortures et autres exactions qui ont provoqué des déplacements forcés des populations à l'intérieur du pays et à l'étranger. Ces actes sont constitués des crimes d'agression, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide et de crimes économiques. Au regard de tous ces faits, le RCT urge le gouvernement congolais, la société civile et tous les partis politiques à maintenir la pression sur la CPI en particulier pour qu'elle s'engage dans des actions devant mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs des crimes graves commis dans l'est de la RDC. Ainsi, souligne-t-il, la communauté internationale éviterait d'ignorer les crimes répertoriés dans le récent rapport des experts des Nations Unies, comme ce fut le cas du rapport Mamping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
4 janvier 1959, 4 janvier 2023, Cela fait aujourd'hui 64 ans depuis que des Congolais avaient été tués lors d'une manifestation dans la ville de Kinshasa, à travers laquelle ils réclamaient l'indépendance. Pour le professeur Ntumba Luaba, cette commémoration confirme les propos du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, selon lequel notre indépendance ne nous a pas été octroyée. Nous l'avons plutôt conquise dans le sang de nos martyrs. Le professeur Alphonse Ntumba Luaba a été joint par Guy Maté.
Comme disait notre tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, le héros national, cette indépendance n'a pas été octroyée. Nous avons acquis l'indépendance de haute lutte dans le sang, et en particulier le sang des martyrs du 4 janvier 1959. Cela nous appelle à un esprit de non-résignation, de résistance, de sauvegarde des acquis de ceux qui ont versé leur sang pour que le Congo vive, pour que le Congo soit libre, pour que le Congo soit indépendant. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans cette lutte-là, qui a toujours caractérisé, je peux dire, le peuple congolais, Kimpanvita, Simon Kibangu, Msiri, Mamadou Ndala et d'autres héros. Donc c'est dire que nous sommes un peuple grand, nous devons rester un peuple debout, nous devons rester un peuple qui se respecte, et c'est de cette façon-là que nous allons commémorer nos morts.
Le président de la Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, SCOD, Jean-Claude Muyambo Kiasa, annonce son départ de l'Union sacrée de la nation et se déclare candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il a fait savoir hier mardi à Lubumbashi, au cours d'une conférence de presse qu'il a animée. Pour lui, il n'est pas comptable de l'échec de l'actuel pouvoir, car il n'a pas participé à la gestion de la chose publique. Jean-Claude Muyambo Kiasa a indiqué aussi qu'il va très prochainement rencontrer d'autres candidats, notamment Moïse Katumbi, pour un éventuel deal politique dans l'intérêt de la population. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Alain Irung.
Je suis conscient de la souffrance de la population congolaise, mon peuple. Je suis conscient de l'insécurité, mais à chaque problème, il y a toujours une solution. Qu'on cesse de nous distraire. J'ai vu tous les caciques, les faucons qui ont eu à travailler avec le président Kabila se verser dans l'union sacrée. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas eu un changement. Raison pour laquelle je quitte l'union sacrée et je vous informe que je suis le candidat président pour les élections de 2023.
Et puis le parti politique Mouvement Social, MS, appelle la population congolaise à s'enrôler massivement. Dans une conférence de presse hier mardi ici à Kinshasa, Norbert Ezadri, vice-président de ce parti, a réaffirmé son appartenance à l'Union sacrée. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Nous nous appuierons sur la résolution du Congrès qui stipule que, je cite de mémoire, deux points, ouvrez les guillemets, le parti, le Mouvement Social, étant parti de l'Union sacrée, et que lors des élections prochaines, s'il faut échouer, il échouera avec le pouvoir, et s'il faut réussir, il réussira avec le pouvoir. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, les résolutions du Congrès sont au-dessus de n'importe quel membre, aucun membre du Président, aucun membre du Secrétariat Général, aucun membre de Secrétaire Généraux, ou encore aucun membre de coordination ne peut aller à la contre de cette résolution.
Au Maniema, après le cadre de concertation que le secrétaire exécutif provincial de la CENI dans cette province a organisé hier mardi à Kindu en faveur des parties prenantes au processus électoral, certains acteurs de la province ont exprimé déjà leurs craintes sur l'indépendance de la CENI. D'autres par contre plaident pour la prise en compte des déplacés de guerre. Les condensés de ce reportage de Florence Kizalunga.
Pour l'évêque du diocèse catholique de Kindu, par exemple, il a émis les souhaits de voir jusqu'où la CENI est prête à aller pour défendre son indépendance. Monseigneur François Abeli Mouya.
Après le scrutin passé, on s'est rendu compte que le dictat politique a été déçu sur l'indépendance de la CENI, sur la volonté du souverain primaire et sur la transparence du scrutin. Et cela peut encore arriver parce que ce qui est arrivé hier, ça n'a pas expliqué que ça arrive encore demain. Là, j'ai voulu savoir jusqu'à quel niveau la CENI l'ONU est prête à aller pour défendre son indépendance, pour faire respecter la voix du souverain primaire.
De l'autre côté, les coordonnateurs du Bureau des inspecteurs de droits de l'homme plaident pour la prise en compte de déplacés de guerre, surtout dans les territoires des Kabambare. Crespin Muyololo.
Le territoire de Kabamba se dépeuple chaque jour à cause de l'insécurité. Les gens s'installent tantôt dans le sud Kivu, Tanganyika, au Katanga et parfois à l'interne. Pour ne pas laisser Kabamba avec des sièges qui ne sont pas conformes par rapport aux élections passées, nous demanderons à la CENI d'activer cette innovation comme elle le fait pour les autres territoires du nord Kivu et sud Kivu, là où il y a la guerre.
Ces cadres de concertation s'est clôturé par une caravane motorisée dans les grands acteurs de la ville de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
La route nationale numéro 1 menaçait de se couper en pleine ville de Kikwit. Une bonne partie du macadam est emportée dans une érosion qui s'est aggravée après la pluie de dimanche dernier dans cette partie de la province du Kwilu. Le président de la société civile de Kikwit, qui tire la sonnette d'alarme, précise que la circulation est aussi difficile sur la RN1 dans la commune de Nzinda. La passerelle érigée pour faciliter le passage en attendant la réhabilitation du pont Luini s'est écroulée après la même pluie. Laurent Buenia plaide pour une intervention urgente afin de réhabiliter cette route. On l'écoute au micro d'Irène Boma.
SOS RN1 qui quitte. Il se passe depuis 2 mois une crise qui ne dit pas son nom sur la RN1 au niveau de Kikwit. En effet, le pont Luini au niveau de la carrière a été démonté au motif que l'on allait lancer un autre plus performant. Hélas, rien ne sait se faire. L'on ne sait que vivre de versions alambiquées et contradictoires. Pendant tout ce temps, Kikwit 3 est contraint à emprunter une déviation de tout danger pour des vies humaines. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la nuit du dimanche, le petit pont de Fortune est emporté dans la rivière Kwilu. Et comble de malheur, la même RN1 vient de connaître un sinistre. La route est en voie de se couper à l'entrée du centre commercial à quelques mètres de la station Angène. Il suffit d'une pluie et même de poids de gros véhicules pour que tout soit consommé. Aussi, la société civile de Kikwit lance-t-elle un ES au pouvoir à tous les niveaux.
Au sud Kivu, la police de circulation routière sera dotée de matériel pour détecter les taux d'alcool chez les conducteurs de véhicules dans la ville de Bukavu, et ce, d'ici à la fin de ce mois de janvier 2023. L'annonce a été faite par le ministre provincial des Transports au cours d'un entretien accordé à Radio Okapi. Selon Mathieu Alimassi, beaucoup d'accidents, notamment à Bukavu, sont liés à l'état d'ivresse au volant. Cette mesure, accompagnée de plusieurs autres, fait partie des innovations apportées dans son secteur pour garantir la sécurité des conducteurs ainsi que des passagers. On écoute Mathieu Alimassi, ministre provincial des Transports du Sud Kivu, dans cet extrait proposé par Cynthia Bachizina-Bizana.
2023 sera pour le ministère des Transports, ici à province du Sud Kivu, une année de changement. Parce que nous voulons innover notre travail. Et on voudrait juste faire un logiciel que nous appelons ici et transport. C'est un logiciel qui va identifier, enregistrer tous les engins roulants terrestres. Aussi, ça cadre avec diminuer sensiblement les tracasseries routières à travers une approche technologique et numérique qui est implémentée déjà ici dans ce secteur des transports. On va équiper les services des brigades de la CPR comme contrôle routier par des matériels. On va donner les détecteurs d'alcoolémie, les taux d'alcoolémie dans le corps de nos chauffeurs. À ville de Bukavu, moi je pense tous les accidents que nous connaissons, que nous subissons, que nous vivons, c'est suite, c'est causé par l'alcool, c'est-à-dire l'ivresse, état d'ivresse au volant. Raison pour laquelle le ministère a jugé utile de mettre cet instrument-là, pour détecter les taux de l'alcoolémie ou l'alcool dans le corps du conducteur ou du chauffeur. Ce sont des matériels qui permettent que pour assurer la sécurité et du chauffeur, mais aussi des voyageurs.
Actualité internationale.
Plusieurs morts au Mali après une double attaque près de Bamako. Le poste de péage de Kassela et le poste de la garde civile de Marka-Congo dans la région de Koulikoro ont été visés lundi soir 2 janvier. Cette double attaque n'a pas été revendiquée, mais elle rappelle combien le taux se resserre sur la capitale malienne. Et puis la frappe ukrainienne sur Makeyevka la nuit du Nouvel An a fait 89 morts, a annoncé ce mercredi 4 janvier la Russie, où des rassemblements à la mémoire des soldats tués ont donné lieu à des rares manifestations publiques de colère et de tristesse.
L'invité.
L'invité de ce journal est le point focal du processus de paix de Nairobi 3 au Nord Kivu. Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata demande aux parties prenantes d'afficher une volonté d'engagement personnel pour la pacification de la RDC. Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata s'entretient à ce propos avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata, bonjour.
Bonjour.
À plus ou moins un mois aujourd'hui des consultations de Nairobi 3, quelles sont les retombées sur le terrain?
Je dirais que des retombées en termes de choses visibles, il n'y en a pas encore assez, sinon que ces restitutions qu'on est en train de faire ici et là, que ce soit en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu et ailleurs, et ces retombées ne pourront exister que quand le comité de suivi aura été mis en place pour pouvoir mettre en application les 10 engagements qui ont été pris à Nairobi.
Le comité de suivi sera mise en place. À quel moment et qu'est-ce qu'on peut attendre de ça?
Nous espérons le plus tôt. Là, on peut comprendre qu'avec les fêtes de fin d'année et le retour de Nairobi qui s'est fait presque vraiment de façon précipitée, on attend que les gens puissent reprendre le travail donc d'ici la première semaine, deuxième semaine de ce mois de janvier pour espérer voir ce comité de suivi. Et il va consister justement à éplucher, à décortiquer les 10 engagements et commencer à les rendre effectifs, à les mettre en application. Par exemple, on a dit qu'on va étudier le cas de ceux-là qui sont détenus et qui appartiendraient aux groupes armés, qu'on voit au cas par cas qui peut être libéré et qui peut ne pas l'être à cause de ce qu'il aurait fait. Et tout cela, ça ne doit être étudié que par un comité de suivi.
Quant à la demande aux groupes armés de pouvoir déposer les armes, il y a un chronogramme qui a été mis en place pour cela.
Il n'y a pas un chronogramme par rapport à ça, même si on a souhaité que cela se fasse illico sur le champ, mais on sait que c'est encore une fois le comité de suivi qui va étudier les modalités pratiques de ce qu'on demande à ces groupes armés. Mais en attendant, on a quand même demandé aussi qu'on puisse comprendre et étudier chaque groupe armé pour savoir les motivations, les raisons qui ont fait que tel membre, tel groupe armé prenne les armes et que cette raison-là cesse pour que ceux-ci déposent les armes à bon escient. De toutes les façons, ce qui est recommandé, ce qui est poursuivi pour tout le monde, c'est la paix. Qu'il n'y ait plus de groupe armé, ni locaux, ni étrangers, mais qu'il n'existe que nos seules forces de défense et de sécurité républicaines, c'est-à-dire mandatées par notre gouvernement pour défendre nos populations et leurs biens. Et que les autres doivent cesser d'exister du moment que nous n'avons plus de raison de pouvoir exister.
Vous êtes allé à ces assises pour parler au nom de la population. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme recommandation aujourd'hui à adresser aux facilitateurs et aux dirigeants congolais après avoir compris les défis et les enjeux de ces processus?
Qu'on puisse voir la volonté politique de pouvoir appliquer ce qui a été décidé pour qu'on puisse voir si cela aide à contribuer au retour de la paix dans notre région, parce que les gens n'attendent que ça. On n'attend que la paix. Et donc, toute spéculation, tout retard, c'est encore une fois quelque chose qui blesse les gens. Et donc, il va falloir que nous puissions nous activer à accélérer les choses. Et c'est à cela que moi, personnellement, je voudrais aussi contribuer en demandant aux autres, à notre hiérarchie, de pouvoir accélérer les choses.
Avant la mise en place du comité de suivi, on semble constater une sorte de statu quo dans la suite du processus. Mais en attendant, quel message vous adressez aux groupes armés qui ont pris part à ces consultations? Parce que sur terrain, visiblement, rien n'a changé. Codeco continue à tuer en Ituri pour ne citer que cette milice.
Personne n'ignore ce que nous vivons. Et c'est pour cela que les gens sont allés à Nairobi, les gens iront encore ailleurs peut-être pour chercher des solutions à ce que nous vivons qui est d'une atrocité non descriptive, qu'on ne peut pas qualifier. Donc, moi je dis ceci, il est temps que chacun de nous prenne sa part dans cet effort de restaurer la paix chez nous. Chacun de nous, chaque partie prenante doit pouvoir s'engager. Le gouvernement, nous qui sommes gouvernés, la société civile, les communautés, les groupes armés, chacun doit prendre sa part pour contribuer à la restauration de la paix ici chez nous. Sans cette volonté-là, tout ce que nous disons, ça restera des mots, des lettres mortes et qui ne vont pas ramener la paix. Mais je suis encore une fois optimiste que nous avons compris qu'il est temps qu'on fasse la paix. Mais je ne suis pas naïf. Il y a encore beaucoup d'obstacles que nous devons surmonter. Et parmi ces obstacles, je veux que chacun de nous s'engage, que chacun de nous prenne sa part de responsabilité pour contribuer au retour de la paix dans notre région, dans notre pays.
Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata, merci.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le point focal du processus de paix de Nairobi 3 au Nord Kivu. Monsieur l'abbé Aurélien Rukwata s'entretenait avec Sadiki Aboubakar. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.